fin d'adolescence, là, vers 17-18 ans, ça a commencé à pas du tout aller dans ma vie personnelle.
J'ai fait plusieurs dépressions au cours de ma vie.
Alors j'ai été malade assez jeune, aux alentours de 16 ans.
C'est l'heure des médicaments.
Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit.
On reconnaît une société à la façon dont on traite les fous.
Pendant que les psychoses,
la famille fait face ou s'efface.
Il n'y a pas la folie d'un côté, puis l'intelligence de l'autre. Un type qui n'est pas fou du tout, c'est plutôt louche. C'est une somme de folie plus grave.
Une série du GEM, le nouveau cap. Groupe d'entraide mutuelle.
Épisode 7.
En séjour à l'HP, au cours des échanges avec d'autres patients, patientes, je retrouve souvent un dénominateur commun à l'origine des souffrances. Les violences familiales surgissent au hasard des confidences. Maltraitance durant l'enfance, abus sexuels, inceste, violences conjugales. Le lien entre les troubles psychiques et la famille m'a toujours paru évident. Si au cours de ma vie, trop d'obstacles se dressent sur mon chemin, ça fait caisse de résonance avec l'enfant terrifié et inconsolable que j'étais. J'avais peur et ne trouvais pas l'apaisement suffisant, que ce soit avec ma mère ou mon père. Hospitalisée, je sais que je n'aurai aucune visite de ma famille, ni coup de téléphone de leur part. Toutefois, je vois les autres patients, patientes qui reçoivent de la visite de leurs parents, frères, sœurs, conjoints, conjointes. Elles sont là, plus ou moins soutenantes. Elles sont là, s'inquiètent et tentent de rassurer leurs proches en souffrance. Ça m'interroge. Comment s'articule le lien entre la souffrance psychique et la famille ? Quel rôle peut jouer la famille dans l'accompagnement d'un proche ? Quelle relation avec une famille à l'origine du développement d'un trouble psychique ? Ici, Elsa, Valérie et Martin nous livrent leurs histoires.
J'ai commencé à avoir pas mal de mouvements d'angoisse, de colère, de révolte, etc. Mais je me suis canalisée parce que je voulais pas faire de vagues justement dans ma famille. Mais par contre, le mal-être, il ressortait de plus en plus. J'ai perdu mon petit frère. J'avais 7 ans et demi. Il est décédé à 5 ans et demi d'une leucémie. Et en fait, à l'époque, on n'accompagnait pas les fratries. Et je pense que mes parents sont restés ensemble, ils sont restés soudés. Mais c'était trop pour eux d'accompagner aussi mon grand frère et moi. On a eu en plus un autre petit frère après, enfin, ça a fait un gros nœud en fait, familial aussi là, sur cette espèce d'enfant de remplacement et tout. Et du coup, ça finit par ne pas pouvoir vraiment se contenir au bout d'un certain temps suite à un accident en fait, physique que j'ai eu. Là, la maladie physique s'est rajoutée à la maladie psychologique, mais ce n'était pas la même. Et là, je pense que mon cerveau, ça a été un peu trop pour lui et du coup, j'ai plus ou moins décompensé à ce moment-là. J'ai toujours remarqué que je faisais des crises d'angoisse quand j'étais avec quelqu'un qui était censé me faire du bien et que ça me faisait du mal. Et en fait, mon cerveau, il ne traite pas l'info. À chaque fois que j'ai été dans cette situation-là, j'ai fait des crises où je tombais. Et j'étais consciente, je ne m'évanouissais pas, mais je tombais par terre. Ce n'était pas d'épilepsie, hein, je ne pense pas, mais c'était extrêmement fatigant. Du coup, après, il fallait à chaque fois remonter un peu, me mettre au calme et remonter un peu. Je sais gérer, mais ce n'est pas arrivé depuis très longtemps maintenant. Maintenant, j'arrive à gérer l'anticipation et... Je suis bien stabilisée là, donc. Mais sans le traitement, c'est trop compliqué. Moi, j'ai commencé à prendre des traitements, ouais, j'avais 20 ans, quoi. Au début, c'était que du tertian, mais. Je fumais beaucoup de cannabis et tout, après, j'ai arrêté. C'est sûr que là, depuis que je prends mes médicaments, je me sens quand même beaucoup plus tranquille. Je sais que quand je les arrête, je suis énervée tout le temps, j'arrive pas à réfléchir, je suis en colère tout le temps. Alors que quand je les prends, je peux mener ma vie normalement, en fait. Par contre, c'est fatigant. Puis je peux quasiment plus lire. J'arrive plus à lire, ça c'est chaud. Je lisais tout le temps avant.
J'étais au lycée, et ben là j'ai senti qu'il y avait des choses qui allaient pas trop, et puis mon entourage me le faisait savoir, mais moi j'étais dans le déni au début, je voulais pas admettre que j'étais malade, et puis les choses se sont un peu empirées. Je suis donc parti de la maison pour des études, et puis après, quand je suis revenu par chez moi, ça allait pas du tout, j'étais en crise, quoi, et je refusais de me faire soigner, et donc il a fallu que je me fasse hospitaliser, en fait. C'est comme dans toutes les familles, je crois, on sait pas trop exactement quand la maladie survient, ce que c'est exactement. Je pense qu'ils sont démunis peut-être un peu par rapport à la maladie et choses comme ça, donc... Il me voulait que du bien, mais moi j'entendais pas à l'époque, quoi. Donc on a donc fait les soins, et puis là c'est là vraiment que j'ai compris certaines choses dans mon comportement qui n'allaient pas. À partir de là, ça a été beaucoup beaucoup mieux. Bon, il y a eu un diagnostic de posée, etc., des soins. Je souffrais de bouffées délirantes, en fait. J'en avais fait plusieurs et c'était très dangereux pour moi, quoi, parce que j'aurais pu... Je perdais complètement la réalité des choses. Maintenant ça va mieux, quoi.
J'ai fait plusieurs dépressions au cours de ma vie. À 23 ans, 6 mois après la mort de ma mère, j'ai fait une tentative de suicide. J'ai été suivi pendant de nombreuses années par différents psychiatres, bon, sachant qu'à chaque fois que je déménageais, je voyais un nouveau psy. Dès qu'il y avait un événement dans ma vie qui n'était pas au top, bim, dépression. Mais comme c'était pas diagnostiqué comme étant bipolaire... C'était juste des épisodes dépressifs, quoi. Et pendant 15 ans, j'ai rien eu. Voilà. Et puis, il y a quelques années, j'ai eu à nouveau des épisodes. Puis là, ça s'est passé en 2018. J'avais une dépression. Ça, c'était au mois de janvier. J'ai été mise sous antidépresseur. Alors, ça se passe toujours en deux phases, hein, les antidépresseurs. C'est un mois, on prend une dose. Au bout d'un mois, on double la dose. Et en fait, j'ai repris le travail au bout de 2 mois. Ma psy a dit tout va bien, on retourne bosser. Et 2 jours après avoir repris le boulot, j'ai fait un accès ou un virement maniaque au travail. Mon cerveau s'est mis à accélérer, je parlais à toute vitesse, j'avais perte de mémoire immédiate, c'est-à-dire je disais quelque chose à quelqu'un, 2 minutes après je répétais la même chose, puis j'étais en état de fébrilité. Mon cerveau, c'est pas qu'il allait trop vite, mais j'arrivais plus à gérer ce que je disais, ce que je faisais, ce que je sentais. Et le soir même, je dormais à Saint-Jacques. Et le lendemain, on m'a dit « Vous êtes bipolaire ». Ça a été une claque quand même, hein, une grosse claque. D'apprendre et d'accepter, il m'a fallu plusieurs années. Là, ça va, je commence à accepter, mais c'est pas toujours facile vu le quotidien, en fait. La maladie impacte le quotidien et ça, c'est pas simple. Pas simple du tout.
Je crois que les deux, trois premiers mois, j'étais vraiment seul. J'avais le droit à un coup de fil de temps en temps ou des choses comme ça. Et puis après, effectivement, peut-être tous les mois, assez régulièrement, il y avait ma famille qui venait me visiter, ouais. Et puis ou mes sœurs. Et là, on échangeait en famille, vraiment dialoguer avec le psychiatre. Et puis du coup... voir comment on peut améliorer, envisager l'avenir. C'était une thérapie familiale, quoi. Donc on a pu mettre les choses au mieux pour moi. Mon entourage, je me suis vraiment, lorsque j'étais pas bien, appuyé sur eux parce qu'ils sont très aidants, très soutenants. Et puis, du coup, je voulais les remercier aussi quand même par rapport à ça. Heureusement qu'ils étaient là, ouais.
Je pensais à ce moment-là pas pouvoir trouver du tout de soutien dans ma famille. Et du coup, de ne pas pouvoir évoquer non plus les douleurs chroniques, et puis que ce soit physique ou mon mal-être psychologique, je savais que je n'allais pas pouvoir être épaulée, puisqu'on n'a pas le droit en fait, d'aller mal dans ma famille, c'est non dit. J'avais quel âge ? J'avais 22 ans, je pense. Je leur ai écrit une longue lettre en leur disant que j'étais hyper mal dans ma vie, que je consommais beaucoup de cannabis, que j'avais des médicaments, que je n'arrivais pas à dormir, que je me sentais hyper mal, et que j'étais hyper en souffrance par rapport au décès de mon frère et tout. Et en fait, ils m'ont moitié convoquée. Et là, ma mère, elle était en larmes. Et mon père, il reprochait de faire pleurer ma mère. Et ils m'ont dit, mais non, mais de toute façon, tu dis n'importe quoi. C'est pas avec le décès de ton frère que t'es mal à l'aise. C'est par rapport à tes fréquentations et tout. Ça va pas du tout. À cette époque-là, j'avais le crâne rasé. Ça leur a pas plu du tout. Et du coup, suite à ça, je savais de toute façon qu'on pouvait pas parler. C'était pas possible. Ils écoutaient pas. Ils niaient ma souffrance, de toute façon. Donc, mes parents, non, il n'y a pas le droit d'aller mal. Hein. C'est une famille, il faut que tout le monde aille bien. On n'a pas le droit de pleurer. J'ai gardé sur moi. Le deuil, il s'est fait bien plus tard, en fait. Je devais avoir quasiment 25 ou 30 ans quand j'ai fait le deuil de mon frère, quand j'ai commencé à être accompagnée par des psychiatres et tout ça. Donc, ça a pris beaucoup de temps.
J'ai voulu parler de ma famille parce que c'est ce qui me semble aujourd'hui être le plus problématique dans ma vie, surtout les relations avec mon père. Mon père, je pense, me juge sur certains points. Je ne correspond pas à ce qu'on attend d'une femme, par exemple. Une femme, elle ne doit pas faire ceci, une femme, elle ne doit pas faire cela. Une femme doit être comme si... Non, c'est pas ce que je suis. Je suis une personne libre, je me considère comme telle. Et donc, dans ma famille, j'ai toujours été perçue un peu comme le mouton noir. Mon père, il a ce caractère, peut-être d'une autre époque, et ou peut-être son caractère à lui. Il pense qu'il a toujours raison. De toute ma vie, je ne l'ai jamais entendu s'excuser. Notamment quand il criait sur ma mère, ou quand il crie sur sa femme actuellement. La dernière fois en fait qu'on s'est parlé, il m'a fait avoir une crise d'angoisse au téléphone. Donc depuis ce jour-là, je lui parle plus. Pour lui, c'est pas une maladie, c'est ce qu'il m'a dit. Il veut pas en entendre parler. Je lui ai juste dit que j'avais une maladie psychique, que au quotidien ça m'affectait, que je devais prendre un traitement tous les jours. Mais non, c'est... pour lui, c'est pas une maladie. Il accepte pas, c'est tout. Enfin, je pense que c'est même pas une question d'acceptation, c'est une question de compréhension, de connaissance. Il m'a dit des choses terribles, qui ne passent pas du tout. Les dépressifs, c'est pas une vraie maladie, qu'il suffit d'avoir un peu de motivation. Il y a plein de gens qui pensent comme ça. Et ben, c'est pareil pour les troubles bipolaires. Hein. J'ai eu le droit aussi à les psychiatres, c'est des charlatans. Et, ah oui, alors ça c'était le mieux, quand j'ai dit que j'étais handicapée, il m'a dit, ah ben tout le monde est handicapé. Je peux pas supporter ça. C'est ça. Aujourd'hui, ça me fait trop souffrir. Donc, je veux dire, il aurait pu à un moment dire « Ah oui, ma fille, elle a une maladie psychique, je vais aller regarder sur Internet. Enfin, » Et puis après, je lui poserai des questions. Mais non, c'est ce que j'attends de lui, en tout cas, ce que j'attendais de lui. Et j'ai plusieurs fois espéré, et ça s'est jamais fait, donc aujourd'hui, j'ai fait une croix dessus. En même temps, je me suis fait une raison, en me disant que ben, lui, ça changera pas de son côté. Et moi, de mon côté, je ne veux pas retourner vers lui pour la simple et bonne raison que si je retourne vers lui, dans un premier temps, ça ira. Il se remettra à me donner de l'argent, à me faire des cadeaux. Et puis au bout d'un moment, il reprendra ses travers. Il me recriera dessus. Il voudra absolument avoir raison. On va s'énerver tous les deux. Et pour moi, ça va pas, ça. Ça finira par me rendre anxieuse et voire angoissée. Donc non, non. J'en veux plus. Des comportements inadaptés, j'en veux plus. Il est plutôt jeune, je me dis souvent que la prochaine fois que je le verrai, ce sera dans son cercueil.
Au début, je pensais avoir des enfants, et puis bon, malheureusement, la maladie a fait que j'ai dû renoncer à certains projets, revoir un peu ma trajectoire de vie, quoi, donc voilà. Alors on y a pensé, mais on s'est dit bon, ça va être compliqué pour les élever parce que vu nos états de santé, un bébé ça c'est pas si facile que ça et puis on préfère ne pas en avoir quoi. C'est un choix déterminé, abouti, réfléchi voilà c'est ça.
Moi j'ai toujours voulu avoir des enfants, je me serais bien vu en avoir plusieurs. Alors pour ça aussi j'ai galéré, c'est ça qui est des fois le sort s'acharne, on a mis plus de 5 ans à essayer de l'avoir. Du coup, PMA, des médocs, prise de poids, des tests, des examens, enfin un truc trop à la noix aussi, quoi. Il n'y a que quand j'ai arrêté mon traitement que j'ai pu tomber enceinte. Bon, par contre, forcément, après, ça n'a pas été un petit peu... C'est là où j'ai été hospitalisée pour la première fois. J'ai été hospitalisée, j'étais enceinte de 2 mois. J'avais un régime spécial femme enceinte au niveau de l'alimentation. C'était super dégueulasse. En fait, j'avais perdu au moins 8 kilos genre, en un mois. Donc, je suis arrivée très fatiguée et très mal. C'est la gynéco, en fait. J'étais en larmes quand je l'ai rencontrée pour le deuxième mois de grossesse. Et elle m'a envoyée aux urgences psy direct. Du coup, je suis allée là-bas. Mais après, j'ai fait que 8 jours. Et après, j'ai repris mon traitement parce que c'était plus sous-compatible en fin de grossesse. Et c'était bon. Mais il a fallu passer par la case urgence psy et puis Saint-Jacques pour que je le reprenne, quoi. Sinon, de toute façon, j'aurais pas pu réussir à gérer la pression avec ma grossesse et tout. Et du coup, là, je me suis fait recueillir par mes parents. Et c'est la première fois, en fait, que j'avais l'impression qu'ils étaient dans le non-jugement et vraiment à prendre soin de moi. Du coup, j'y suis restée plusieurs semaines. Depuis ce moment-là de la grossesse, eh ben, du coup, la relation avec mes parents, elle est hyper forte maintenant. Maintenant, on peut parler tout.
Alors, mon fils, déjà, le jour où ça s'est passé, il avait 19 ans. C'était au mois de mars. Il devait passer le bac cette année-là. Je culpabilise en me disant que c'est à cause de moi qu'il n'a pas passé le bac, parce qu'il lui manquait plusieurs semaines de stage, et j'étais pas là derrière pour le pousser. Et alors c'est peut-être pas vrai, hein, mais c'est ce que je m'imagine. Et puis pendant longtemps, on a eu des relations compliquées, parce qu'il comprenait pas la maladie, il voyait pas ce que ça me faisait, les fois où je me mettais en colère, où j'explosais, il comprenait pas mes angoisses. Et bon, là, maintenant, il a 23 ans, et ça s'est beaucoup aplani entre nous. Mais ça s'est aplani du fait qu'il a pris conscience que quand on avait des rapports conflictuels, ça influait en fait sur mon bien-être, sur mon état psychique. Moi, il suffit qu'on me crie dessus, je fais une crise d'angoisse. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, parfois. Donc, j'essaye de me préserver de tout ça, mais moi, il peut m'arriver... par exemple, je rentre du boulot à vélo, il suffit qu'il y ait une voiture qui me klaxonne parce que je roule pas assez vite, parce que je suis pas au bon côté. Je rentre chez moi, je suis comme ça. Je tremble. Donc, c'est pas évident par moment. J'ai fait un ETP, ça s'appelle l'éducation thérapeutique du patient. Donc, ça s'adresse à toutes les personnes qui souffrent de maladies chroniques, pas que des maladies psy, avec 10 autres patients sur les troubles bipolaires. Donc, on apprend plein de choses. Et il y avait une partie où on pouvait venir avec la famille. Et j'ai essayé de convaincre mon fils, parce que ça me faisait beaucoup de bien, mais il n'a pas voulu.
Après, je t'ai suivi au HOME. C'est un centre spécial pour les femmes, soit enceintes, soit qui ont eu un enfant de moins de 1 an, avec des infirmières psy, médecins psychiatres, puéricultrices. Et du coup, j'ai été là-bas dès le début de ma grossesse, en fait. Après, j'étais en ambulatoire. J'allais une fois par mois voir la sage-femme. Et après... Quand j'ai accouché, je suis allée là-bas, mon fils il avait 3 semaines et j'y suis restée jusqu'à ses 5 mois et demi. Je faisais entre 3 et 5 jours là-bas, suivant les semaines. Mais c'est pareil, là-bas à un moment donné j'ai fait une crise parce qu'ils m'ont forcé à arrêter l'allaitement et j'avais pas du tout envie. Pour que je remonte mon dosage de médoc parce que c'était plus assez fort et c'était pas compatible avec l'allaitement. Et du coup là j'avais pas du tout envie, c'était hyper dur. Là, j'ai refait crise, du coup, ça a que envenimé leur truc. Ils ont que encore plus cru que j'étais pas en capacité de le faire. Mais après, j'étais trop mal, donc je les ai remontés. Mais j'avais pas envie d'arrêter l'allaitement. Et d'ailleurs, au début, je voulais pas donner le biberon à mon fils. C'est mon copain qui a pris le relais. Même la nuit, du coup, j'ai arrêté complètement. Je voulais pas lui donner le biberon, j'avais encore du lait et tout, c'était pas possible. C'était trop dur, cette partie-là. C'est pas des bons souvenirs.
Ça m'arrive de gueuler, de moins en moins. Et moi, contrairement à mon père, d'abord, je sais reconnaître quand j'ai tort. Et deuxièmement, je sais m'excuser. On a appris aussi à se dire « je t'aime ». C'est vachement important. Mon père ne m'a jamais dit « je t'aime » de toute ma vie.
En fait, j'avais trop l'impression qu'il allait devenir psychotique comme moi au début. Bon, là, je crois qu'il est tiré d'affaire. Au moins pour l'instant. Le psychiatre, il me demandait l'autre jour. Je lui dis « ouais, j'ai tout le temps peur pour lui et tout. » Il me dit « mais vous savez très bien que vous n'avez pas été élevé comme ça. » Je dis « mais si. » Je dis « mais moi, ma mère, elle a perdu un enfant. On était tout petits encore. J'ai été élevée par une femme qui a perdu un enfant. Il y a un jour de l'école, j'ai juste pris 1 minute de plus parce que j'ai pris une rue plus loin que l'autre. Je suis arrivée et je me suis fait retourner la tête par une baffe, mais monumentale, parce que j'avais mis trop de temps à rentrer. Et ce genre d'épisode-là, il y en a eu plein. J'ai été élevée comme ça, dans la peur continue qu'il nous arrive un truc, même maintenant, à notre âge. Du coup, je dois tout relativiser à chaque fois, à prendre sur moi, à me dire, bah, tes angoisses, les projette pas tout le temps, parce que moi, j'ai vécu ça. Ma mère, elle est comme ça maintenant, et je pense que le fait de l'accepter aussi, comme elle était, ça lui a permis de m'accepter aussi un peu moi comme je suis, et qu'on apprenne à mieux cohabiter ensemble, et tout ça. Mais maintenant, c'est chaud, parce que j'ai tout le temps peur qu'il lui arrive un truc. Enfin, en fait, maintenant que je suis maman, je prends conscience de ce que ça me ferait si mon fils y mourait. Mais j'imagine même pas continuer ma vie, hein, c'est pas possible. J'ai des sentiments d'étrangeté là, à certains moments, et pas mal en ce moment, du fait qu'il soit différent de moi, en fait. Là, je suis en train de prendre conscience du fait qu'il a sa propre personnalité et qu'il peut vivre sans moi. Et du coup, c'est hyper dur. Parce que du coup, ça veut dire que s'il vit sans moi, Je peux pas le protéger de tout. C'est hyper dur. Mais en fait, j'en ai conscience. Donc c'est ça qui est hyper chaud. J'intellectualise beaucoup trop tout le temps, c'est trop fatigant.
C'est essayer de se me remettre en question aussi. Parce que dans ma vie, j'ai été jugée par les autres. Beaucoup. Et ne pas culpabiliser, c'est très difficile. À une époque, j'avais des problèmes de poids. Je culpabilisais de manger. Et en matière d'alimentation, quand vous culpabilisez, vous remangez. C'est un cercle infernal. Donc, je culpabilisais quand j'arrivais en retard au travail. Donc, il y a plein de raisons de culpabiliser. Et de pas se sentir bien pour raison X, Y. Moi, aujourd'hui, je suis pas centrée sur ces questions. Je pense juste à mon quotidien, à essayer d'être bien. À vivre avec cette maladie, en fait. Mais c'est quand même un handicap. Ça influe sur ma vie de tous les jours. Ça, il faut le reconnaître. Je peux pas faire sans.
J'ai vécu plusieurs choses au GEM et puis on a proposé à papa s'il voulait intégrer l'association, le conseil d'administration, l'association parrain et tout ça. Et papa s'est impliqué dedans. Et du coup, ça permettait dans ce lieu-là d'être à la fois à ma place, en famille aussi, et puis de faire avancer un peu cette aventure du GEM.
J'ai pris contact avec une asso qui s'appelle les Pâtes au beurre, qui accompagne justement en fait les parents, que ce soit maman, papa ou couple, autour des questions de la parentalité. Et là, j'y suis allée déjà 5 fois, et c'est un vrai appui aussi pour traiter ces questions-là de devenir parent, devenir maman, avoir un petit enfant, bébé, enfant, ado et tout ça. Et du coup, ça m'apporte en fait. Donc finalement, c'est encore un lieu de soin en quelque sorte. Mais par contre, ça vient accompagner les questions, d'autres questions aussi. On est même allés tous les trois pour se rassurer aussi, se dire que lui, il allait bien et qu'il grandissait bien et que j'avais beau être malade et son père pas très présent, on arrive à répondre à ses besoins et à gérer les choses. Et du coup, ça, c'est rassurant aussi, ouais, vraiment.
La famille, c'est très important pour moi, c'est un peu comme un socle, c'est un des maillons essentiels qui fait qu'on peut vivre correctement, on peut s'épanouir, on peut avoir une vie de citoyen et puis d'avoir des liens ordinaires.
On peut faire des règles générales sur chaque maladie psy, mais chaque malade est particulier.
Je pense que le chemin de thérapie que j'ai fait, finalement, il sert à tout le monde aujourd'hui.
J'ai dû me battre souvent, et il y a eu des fois où je me sentais vraiment à plat. Mais j'ai toujours continué à avancer, en fait, à gérer mes difficultés.
Moi, j'ai pas l'impression de louper des trucs. J'ai l'impression de créer beaucoup d'occasions, de passer du bon temps ensemble. Et ça me fait du bien.
Au creux de mes rêves, mon cœur se ronge à vouloir une trêve d'une réalité dans un songe. Décrypter les formes de pensées ressassées au sommet dorment des soleils insensés. Décrocher de mes souhaits quand je n'étais qu'un enfant, faire le deuil des fées, des projections des parents, que retournent à la une les diamants de mes yeux, pour que d'autres les usent et rebrillent de mille feux, et descendre des nuages, enfin libre et présent, la raison de mon âge et ses précieux moments, et descendre des nuages, enfin libre et présent, la raison de mon âge et ses précieux moments.
À suivre, épisode 8, des amitiés valses, d'autres entrent dans la danse.